La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
L'art et la poésie. Bonjour. Maritain a horreur de l'académisme. Horreur. L'académisme, c'est une sorte de raideur. Une sorte de mort, une fausseté. Quelque chose qui trompe, une tromperie. Et il va s'opposer à l'académisme en développant l'idée d'une vie, l'idée d'une intuition créatrice. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Il s'agit de voir comment. Revenons à quelques artistes qu'il a côtoyés. Je vais parler de Jean Hugo. Dans « Frontières de la poésie », Jacques et Raissa font une description de la poésie de Jean Hugo. Au creux de l'humilité, un peintre médite et regarde. Il voit les vignes que Dieu a faites, les oliviers, les mycocouliers, les taureaux, les licornes, et les landes et les ciels de la Bretagne, et les travaux et les mouvements au ralenti des hommes que Dieu a fait aussi. Ce qu'il reçoit par les yeux tombe dans le silence d'un lac fervent de contemplation et végète lentement avant de ressurgir au dehors en une œuvre capable d'agir comme un talisman qui apaiserait les cœurs. À force de respect religieux pour les choses, mais qui ne suffirait pas sans la profondeur de l'âme, Jean Hugo réconcilie la sensibilité de notre temps et tout ce qui nous enchantait dans le douanier Rousseau avec l'altière et grave pureté de l'inspiration des primitifs et des Chinois. Jean Hugo correspond-il à ce portrait ? Ce n'est pas une question qui nous permet de comprendre forcément l'art, mais nous intéresse pour comprendre l'intérieur, le processus de Maritain pour percer ainsi aussi bien la poésie que son fondement. Eh bien, regardons un peu ce qu'il écrit en 62. Très cher Jacques, j'ai été profondément ému en lisant l'admirable journal de Raissa. On est ébloui à chaque page par la pureté de son âme et par l'éclat de son intelligence. Merci du fond du cœur de m'avoir envoyé ce précieux livre. J'y retrouve la rue du Parc, la petite chapelle, tous ces chers souvenirs. J'ai bien regretté de ne pas vous voir à Toulouse. Quand y revenez-vous ? Faites-moi signe quand une visite ne vous dérangera pas trop. J'espère que vous allez mieux et que vous vous reposez un peu en Alsace. Merci encore, cher Jacques. Je vous embrasse très tendrement. Les amitiés avec les artistes sont des amitiés d'âme, une sorte de communion des âmes qui permet à Maritain d'avoir une vision extrêmement profonde de l'art. Et je voudrais à cet égard citer deux témoins. Le premier, c'est Henri Barthes. Dans Maritain en notre temps, il y a plusieurs pages consacrées à l'art chez Maritain. Maritain a connu Henri Barthes et a été tout à fait élogieux à son égard à propos de cette tentative de présentation du philosophe. Je peux dire tentative, mais c'est absolument remarquable. C'est écrit dans un style superbe. Et Henri Barthes a une vision, je trouve, tout à fait synthétique et juste de l'art chez Maritain. Il écrit... Remarquons d'abord qu'en tout temps, Maritain a mis en lumière ce qui rapproche les beaux-arts, ou arts qui se suffisent, des arts dits autrefois serviles, comme si c'était une condition de santé spirituelle pour les premiers de se tenir religieusement humble dans la mesure même où ils bénéficient de cette grâce naturelle qu'est la poésie. Il écrit à ce propos en 1953. Les beaux-arts, comme toutes sortes d'arts, tendent plus immédiatement, quoique moins profondément, à produire un bon ouvrage qu'à produire une belle œuvre. Non, veux-je dire, par dédain pour la beauté, mais par crainte et tremblement. Vous remarquez tout maritain, c'est-à-dire une vision un peu, on va dire, scalaire, comme un éventail. Il s'agit toujours chez lui de trouver des vérités cachées. Eh bien ici, on ne va pas faire de saut qualitatif entre l'art artisanal, les beaux-arts, etc., mais simplement une sorte de gradation où pour certains, pour l'art, qui sait qu'il est art, la finalité est claire, mais ça n'enlève rien à d'autres arts, comme un art artisanal. Il est tout aussi délégué à être beau. C'est très important. Et l'argumentation de Maritain, c'est finalement que c'est par crainte et tremblement, c'est-à-dire comme si on était devant le buisson ardent et qu'on se recule parce que l'art mineur, comme on dirait, a une sorte d'intuition de ce que peut être le grand art. Et Henri Barthes souligne, c'est pourquoi dans Art et Scolastique, la dignité de l'artisan est si fortement accentuée, et vous reconnaissez ici l'esprit des maîtres médiévaux. Non seulement dans Phidias et dans Praxitèle, écrit Maritain, mais dans le menuisier et le forgeron de nos villages, il reconnaissait un développement intrinsèque de la raison, une noblesse de l'intelligence. L'artisan, dans le type normal du développement humain et des civilisations vraiment humaines, représente le commun des hommes. Si le Christ a voulu être artisan de petite bourgade, c'est qu'il voulait assumer la condition ordinaire de l'humanité. Donc ici, vous avez une lecture bien sûr de l'art comme l'homme est créateur, mais surtout une sorte de sequela Christi, suivre le Christ dans sa manière enfouie de vivre à Nazareth. Le deuxième témoin que je voudrais convoquer pour l'art, c'est le père Blanchet. Le père Blanchet, Charles Blanchet, a proposé Maritain en toute liberté, page choisie, une sorte d'anthologie où vous avez plusieurs rubriques. La première, ce sont les racines métaphysiques, et la deuxième, c'est l'art. Il l'intitule « Le pouvoir créateur de l'homme ». Et il raconte pourquoi et comment il a été attiré par Maritain. L'art fut chez Maritain comme un ciel lumineux qui eut ses retombées un peu partout dans son œuvre. La place de la profondeur de l'expérience créatrice en poésie et aussi dans le surgissement du verbe mental. L'importance de cette part nocturne de l'homme qu'il appelle l'inconscient de l'esprit, sans laquelle les œuvres manquent de chair et d'âme. L'intelligence créatrice qui se dégage de la raison ouvrière et jusqu'à cette ivresse de l'exister personnel qui inspire si fortement le court traité de l'existence et de l'existant et la nouvelle approche de Dieu. Enfin, le style qui se libère de plus en plus de la forme scolastique pour jaillir en éclats de poésie. Cette œuvre qui gagne en humanité au fil des ans, ne sont-ils pas les fruits de cette longue fréquentation de la poésie? Ce qui intéresse le père Blanchet ici, c'est de voir en quoi la poésie elle-même a eu une incidence sur la manière d'écrire et donc de philosopher de Maritain.
Thank you.
Charles Blanchet, Henri Barthes, ont été, comme beaucoup de témoins, pris par un écrit majeur sur l'art. C'est la réponse à Jean Cocteau. Il y a un échange entre Jean Cocteau et Maritain, et cet échange est publié. C'est un livre majeur qui a bouleversé toute une génération. Regardons ce que dit Cocteau à Maritain. « Vous êtes un poisson des grandes profondeurs, lumineux et aveugle. Votre élément est la prière. Sorti de la prière, vous vous cognez contre tout. La maladresse. Voilà notre terrain d'entente. L'appareil thomiste trompe le monde sur la vôtre. Une foule de méprises fait passer la mienne pour de l'habileté. Nous ne sommes pas malins. Le malin trouverait en nous des traîtres. Vous, vous ne trichez pas. Vous n'évitez aucun détour. Vous vous élevez lorsqu'il vous plaît, d'où il vous plaît. Vous ne montez pas par machine. Vous montez comme un liège vers les régions qui vous exigent. J'affirme que c'est l'enfant qui m'a vu en vous. L'enfant a vu l'enfant. Ainsi, les enfants se dévorent des yeux d'un bout à l'autre d'une table de grandes personnes. Oui, mon cher Jacques, longtemps après, dînant pour la première fois dans votre salle à manger de Meudon, j'ai retrouvé l'odeur de Maison Lafitte où je suis né, les mêmes chaises, les mêmes assiettes que je tournais maladivement pour que les motifs bleus coïncidassent avec le pied du verre. C'est sous le signe de l'enfance que nous nous sommes connus. Il faut que je me le répète pour me juger digne de votre accueil. Vous, dont on se demande si votre corps n'est pas une formule de politesse, un vêtement jeté vite sur l'âme pour recevoir vos amis. J'hésitais au bord du ciel comme un imbécile. Max Jacob priait pour que je tombasse, reverdi se fâchait. Et vous m'avez poussé, poussé comme un homme qui tue. Vous saviez que je ne nageais pas, mais vous connaissiez ce que peut l'instinct de conservation, surtout lorsqu'il dépasse le goût de vivre et qu'il s'agit de sauver son âme au lieu de sauver sa peau. Longue amitié entre Cocteau et Maritain, malgré des hauts et des bas, mais pour Maritain, l'amitié est un engagement. Elle n'empêche pas des détours, des difficultés, mais elle dure. Elle n'est jamais abolie. Elle est donnée une fois pour toutes. Cocteau sera au chevet de Raïssa à sa mort. Quelle est la réponse de Maritain? Alors la réponse de Maritain, elle va jouer sur cet esprit d'enfance, sur la soif spirituelle de Cocteau et sur sa manière d'être assoiffé en poésie. Entre le monde de la poésie et celui de la sainteté, écrit Maritain, il y a un rapport d'analogie. Je prends ce mot dans toute la force que lui donnent les métaphysiciens, avec tout ce qu'il signifie pour eux et de parenté et de distance. Toutes les erreurs viennent de ce qu'on ne sait pas voir cette analogie. Les uns enflent la similitude, ils brouillent la poésie et la mystique. Les autres l'exténuent, ils font de la poésie un métier, un art mécanique. Je vais vous commenter, m'arrêter un petit peu. Les premiers, donc, qui enflent la similitude et brouillent la poésie et la mystique, c'est Rimbaud. Rimbaud, dans les Illuminations, va voir un au-delà, ce que les autres ne voient pas. C'est dans la poursuite du poète romantique, qui est un pasteur et un passeur. Il mène un peuple vers un au-delà. Et il est l'intermédiaire entre cet au-delà et le peuple. La poussée ultime de ce mouvement romantique, on peut la trouver chez Rimbaud, dans les Illuminations, où, par l'alchimie du verbe, il est un voyant. Le poète est un connaisseur et il a accès à une connaissance que les hommes n'ont pas. Vous voyez, la finalité de la poésie qui est de créer vient se superposer à la finalité de la métaphysique, celle de savoir. Donc ici, ce n'est pas la bonne voie de la poésie. Les autres l'exténuent, ils font de la poésie un métier, un art mécanique, vous devinez ce que c'est. C'est l'art pour l'art qui va mener à l'académisme. Et vous avez des pages, c'est du vitriol contre l'art sulpicien que l'on peut voir dans les églises, avec une sorte d'art industriel, pour reprendre la formule de l'éducation sentimentale de Flaubert, quand M. Arnoux fait de l'art industriel, vous voyez bien l'oxymore, et la critique ironique de l'impossibilité d'un art industriel, ce qui en dit long sur nos procédés kitsch en art. Poursuivons la lettre, la réponse de Maritain à Jean Cocteau. La poésie est d'en haut cependant. Non pas comme la grâce, qui est essentiellement surnaturelle et nous fait participants de ce qui est propre à Dieu seul, mais comme la plus haute ressemblance naturelle de l'activité de Dieu. Notre art, disait Dante, est le petit-fils de Dieu. Et non seulement il dérive comme de son pur archétype de l'art qui a fait le monde, mais pour avoir quelque idée de sa noblesse, il faut évoquer le mystère de la procession du Verbe. Car l'intelligence comme telle est féconde, et là où elle ne peut produire un autre soi-même comme en Dieu, elle veut au moins engendrer une œuvre faite à notre image et où survive notre cœur. Il y a une inspiration d'ordre surnaturel à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent dociles et qui présuppose la charité. Elle élève les âmes saintes au mode surhumain d'agir qui fait la vie mystique. Mais dans l'ordre naturel aussi, il y a une inspiration spéciale qui, elle aussi, est au-dessus de la délibération de la raison et qui procède, comme le notait Aristote, de Dieu présent en nous. Telle est l'inspiration du poète. C'est pourquoi il est bien un homme divin. Comme le saint? Non. Comme le héros. Dios Hector, le divin Hector. Voyez à quel niveau se situe l'échange entre Cocteau et Maritain. Et c'est déjà en germe tout ce que nous allons voir dans l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, écrit en 53. L'intuition créatrice dans l'art et la poésie, chef-d'œuvre annoncé déjà dans les années 20, comme nous venons de le voir. Regardons rapidement en quoi consiste cette intuition créatrice. Vous comprenez bien qu'il y a un conflit. Il y a un conflit pour un artiste entre les règles de l'art. Quiconque a commencé à prendre un pinceau sait très bien qu'il y a des règles de perspective, des règles de couleur qu'il faut apprendre. Les écoles de beaux-arts sont là pour ça. Quiconque a commencé à toucher un instrument sait qu'il y a des problèmes de doigté, de position du corps et des règles de rythme et d'harmonie, de son, de couleur. C'est très long. L'art a ses règles. Que doit faire l'artiste? Obéir à ses règles, c'est tomber dans l'académisme. Il faut à la fois obéir et à la fois les transcender. Du coup, on arrive à un conflit. Et l'œuvre d'art ne peut avoir lieu que, c'est paradoxal ce que je vais dire, s'il y a une dépossession de l'artiste. C'est-à-dire qu'il faut travailler énormément pour qu'un jour, d'une manière un peu passive et inattendue, l'intuition créatrice puisse advenir et créer une œuvre originale. Et le premier qui sera étonné, c'est l'artiste. Il est comme traversé par quelque chose qui le dépasse, à condition qu'il y ait eu auparavant ce combat de lui-même avec les règles de l'art, pour les acquérir et en même temps pour les dépasser. Vous comprenez très bien qu'un artiste n'est pas celui qui dit « Bon, je suis artiste ce matin, il est 8h15, ok, mon œuvre, je la fais et je serai le grand artiste du siècle ». Un artiste ne peut pas s'autodéclarer et ne peut pas dire « Cette œuvre, je vais la faire maintenant ». C'est une sorte de dialogue avec la matière, qu'elle soit sonore, qu'elle soit plastique, qu'elle soit une écriture. Et ce dialogue a pour condition obligatoire une forme de passivité. Maritain décrit cette forme de passivité à partir d'une anthropologie. C'est-à-dire qu'il voit dans l'homme différents niveaux, on va dire. Le niveau extérieur, c'est celui des sens. Le niveau intermédiaire, c'est celui des sens internes, imagination, mémoire. Le niveau encore plus intérieur, c'est le concept. Et au cœur de l'homme, il y a ce soi. Le soi dans lequel, finalement, toutes ces dimensions, hein, on pourrait représenter ça par trois cônes, du plus extérieur au plus intérieur, englobés les uns dans les autres. Ce dessin des trois cônes est fait par Maritain lui-même dans l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, en 53. Et ils sont tous soudés, ces trois cônes, dans leur partie conique, autour du soi, qui est la soudure même de toutes ces dimensions humaines. Eh bien, ce soi comporte une nuit obscure. La substance de l'homme, écrit Maritain, lui est obscure à lui-même. Il ne connaît pas son âme, si ce n'est dans la fluide multiplicité des phénomènes passagers qui en émergent, et qui sont atteints plus ou moins clairement par la conscience réflexive, mais qui ne font qu'accroître l'énigme et nous laisser plus ignorants de l'essence de notre moi. L'homme ne connaît pas sa propre subjectivité, ou, s'il la connaît, c'est sans nulle forme saisissable, en la sentant comme une nuit propice et enveloppante. C'est bien à cela que Melville songeait, je pense, quand il observait que personne ne peut bien sentir sa propre identité sans fermer les yeux, comme si l'obscurité était l'élément naturel de notre essence. La subjectivité, en tant que subjectivité, est inconceptualisable. Elle est un abîme inconnaissable. Comment dès lors peut-elle se révéler au poète ? Le poète ne se connaît pas dans la lumière de sa propre essence. Puisque l'homme ne se perçoit lui-même que par une répercussion de sa connaissance du monde des choses et reste vide à lui-même s'il ne s'emplit pas de l'univers, le poète ne se connaît qu'à la condition que les choses résonnent en lui, et qu'en lui, d'un même éveil, elle et lui sortent ensemble du sommeil. En d'autres termes, la première exigence de la poésie, qui est la connaissance obscure par le poète de sa propre subjectivité, est inséparable d'une autre exigence, qui est la saisie par le poète de la réalité objective du monde extérieur et intérieur. Non par le moyen des concepts et de la connaissance conceptuelle, mais par le moyen d'une connaissance obscure, que je décrirai dans un instant comme connaissance par union affective. C'est là toute la grande dimension de Maritain, de montrer que l'intelligence englobe d'autres manières de connaître que l'intelligence logique. Et la connaturalité, cette connaissance par affectivité, elle est le propre aussi bien du mystique que du poète sur deux modalités différentes.
La philosophie réaliste, Claire Bressolette.